Évidemment, la situation entre Israël et l'Iran que nous continuons de suivre tout au long de la matinée après le début de la riposte iranienne hier soir. Aux frappes israéliennes de la nuit de jeudi à vendredi, des dizaines de missiles tirés vers l'État hébreu, des dizaines de blessés et au moins deux morts. Alors que le centre-ville de Tel Aviv a notamment été touché, Sami Bourlifa nous appelle de Jérusalem dans moins de 20 minutes. Au début du journal, on parlera aussi de l'ONU et de l'Iran qui y accusent les États-Unis d'être complices de ces frappes israéliennes. Karine Auton nous dira tout ça. Et puis notre édition spéciale continue à 6h13, temps universel, avec le spécialiste de l'Iran, Thierry Coville. D'ici là, vous suivez la situation sur notre live en ligne RFI.fr. Mais d'abord les sports. Bonjour Olivier Prompt.
Bonjour Julien, bonjour à tous.
On commence par du football avec cette nouvelle compétition, le Mondial des clubs qui débute ce soir aux États-Unis.
Oui, ou comment le football devient chaque jour un peu plus circus. Et hop, une compète de plus. 32 équipes venues des 6 confédérations continentales de la FIFA. 11 villes, 12 stades à travers tout le pays. Pas sûr qu'il soit plein, c'est plutôt d'ailleurs tout le contraire. La compétition ne suscite aucun engouement aux États-Unis. Ce Mondial des clubs, souvent décrié, surtout en Europe, est le nouveau jouet ou caprice, c'est selon de Gianni Infantino, tout puissant patron d'une FIFA avide d'argent. Les Saoudiens ont par exemple investi 1 milliard d'euros dedans. Voilà, il devrait rapporter beaucoup d'argent à certains. 125 millions d'euros, tiens, au vainqueur par exemple. Et au moins, il servira ce Mondial des clubs de répétition générale à un an du seul Mondial qui vaille la peine, au fond, celui des sélections.
Coup d'envoi donc ce soir avec la première des 4 équipes africaines en lice.
Et pas des moindres, la plus prestigieuse Al Ahly du Caire, 12 fois champion d'Afrique, opposée à 0 heure temps universel à l'Inter Miami de Lionel Messi. Entreront ensuite en lice l'Espérance Tunis mardi face au Brésilien de Flamengo. Mercredi, le WAC Casablanca se mesurera au Manchester City de Pep Guardiola et d'Erling Haaland. Le même jour, les Mamelodi Sundowns se frotteront au Sud-Coréen d'Ulsan. Et puis, dans ce plateau où figurent également le Real Madrid, le Paris Saint-Germain et tant d'autres, on suivra particulièrement les performances des joueurs du continent, bien sûr, sur RFI. Sofiane Amazian en a retenu 5 à suivre particulièrement.
Maintenir la dynamique après la victoire en Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain du Marocain Achraf Hakimi fait figure de favori de cette nouvelle compétition. Le prix Marc Vivien Foët 2025 réalise la saison de sa vie, auteur de 9 buts et 14 passes décisives toutes compétitions confondues. Il sera l'un des joueurs à suivre assurément. Lui aussi a brillé au niveau statistique. L'attaquant guinéen de Dortmund, Serou Guirassy, co-meilleur buteur de la Ligue des Champions avec 13 réalisations, a fait taire les sceptiques et sera surveillé de très près par les défenses adverses. À surveiller également le Gabonais Denis Bouanga, machine à but depuis son arrivée chez les Los Angeles FC en 2022. C'est d'ailleurs lui qui offre la qualification à son club face à Club América. Passé par la Ligue 1, comme Bouanga, Youssef Belaïli a fait son nid du côté de l'Espérance de Tunis. Connu pour sa carrière plutôt tourmentée, l'ailier algérien de 33 ans démontre l'étendue de son talent. Ces derniers mois, meilleur passeur et deuxième meilleur buteur cette saison en Ligue des Champions africaines. Aussi habile en club qu'en sélection, Ronwen Williams peut nourrir lui des ambitions avec les Mamelodi Sundowns. Nommé pour le trophée Yashin en octobre dernier lors de la cérémonie du Ballon d'Or, le portier des Bafana Bafana devra sortir le grand jeu pour exister dans une poule composée notamment du Borussia Dortmund.
Et le coup d'envoi donc de ce Mondial des clubs, ce soir 0h, temps universel à l'Arly face à l'Inter Miami.
Basket et tour du Cameroun pour terminer.
Le basket, c'est la finale de la NBA aux États-Unis avec Oklahoma City qui revient à hauteur d'Indiana. 2 victoires partout après le match 4 la nuit dernière. Succès dans l'Indiana pour le Thunder, comme on l'appelle, 111-104. Malgré côté Pacers, les 20.5 passes et 8 rebonds du Camerounais Pascal Siakam. Quant au tour du Cameroun, ça tombe bien, ça enchaîne. 9e et avant-dernière étape ce samedi, entre Puma et Yaoundé, 157 km, Boris Michel Tiencheux, le Camerounais, est toujours en jaune, 12 secondes d'avance sur l'Algérien Mansouri.
Merci Olivier Prompt, à tout à l'heure. Et bonjour Catherine Potet.
Bonjour Julien, bonjour à toutes et à tous.
À la une, évidemment, de la presse internationale, l'escalade entre l'Iran et Israël.
Alors que l'Iran a enclenché sa contre-attaque face au bombardement ordonné par Benjamin Netanyahou, la presse israélienne fait un premier décompte des victimes. Au moins 2 morts et des dizaines de blessés dans le centre d'Israël, annonce Haaretz. Alors que le Jérusalem Post publie la photo de secouristes s'activant devant les décombres d'un immeuble. La Republika de son son côté a accompagné des habitants dans un abri à Tel Aviv. Une vieille dame se plaint, « Je me sens mal », explique-t-elle au journal italien. « Nous sommes entrés dans un cycle de guerre dont nous ne pouvons plus sortir. Netanyahou reste au pouvoir parce que la guerre continue. » Mais un réserviste de 26 ans s'interroge. « Que pouvions-nous faire ? Nous n'avons pas d'autre choix. Les Iraniens fabriquent la bombe atomique et nous savons qu'ils l'auraient utilisée contre nous. » De son côté, l'agence de presse iranienne IRNA annonce laconiquement que l'Iran a ciblé les bases militaires israéliennes ayant servi au point de départ aux frappes contre l'Iran, ainsi que des usines de fabrication d'armes et d'autres sites militaires en Israël.
La presse internationale se pose par ailleurs de nombreuses questions.
Et tout d'abord celle-ci, pourquoi Israël attaque l'Iran maintenant ? Question posée notamment par Le Soir qui précise... Préparées depuis longtemps, ces attaques contre l'Iran se produisent alors que les États-Unis ne s'y opposent plus, que l'Iran est affaibli et que son programme nucléaire est pointé du doigt. Le quotidien belge a interrogé Sima Shain, une ancienne du Mossad, le service de renseignement extérieur d'Israël, qui confirme cette attaque est le résultat d'une conjonction de facteurs. Elle cite notamment la crainte israélienne que des bombes atomiques soient sur le point d'être fabriquées et le fait que 20 mois de guerre ont considérablement affaibli le pouvoir de dissuasion de l'Iran qui ne peut plus compter sur le Hezbollah pour riposter. De son côté, le quotidien suisse Le Temps rappelle que le Premier ministre Benjamin Netanyahou a fait d'une attaque contre l'Iran l'un de ses principaux chevaux de bataille depuis des décennies. Cette idée fixe, ajoute Le Temps, s'ajoute à la volonté israélienne de rester l'unique détenteur de l'arme nucléaire dans la région. Le Times of Israel estime, lui, que l'une des raisons les plus évidentes de l'attaque israélienne est sans doute l'annonce faite en avril par Donald Trump d'engager des négociations directes avec l'Iran sur son programme nucléaire dans les 60 jours. Vendredi, précise le quotidien israélien, c'était le 61e jour.
La situation en tout cas suscite l'inquiétude.
Inquiétude exprimée notamment par le journal Libération qui parle d'un embrasement dangereux aux accents religieux. L'attaque israélienne spectaculaire contre l'Iran, poursuit le quotidien français, représente d'un point de vue militaire une énorme réussite. Du point de vue politique, par contre, elle met en danger des millions de civils, y compris la population israélienne, et fait basculer le Moyen-Orient dans un embrasement que les pompiers habituels, les États-Unis, le Conseil de sécurité et les États avoisinants ne peuvent ou ne veulent plus éteindre. Quant aux Européens, ils soutiennent Israël, remarque Le Monde qui parle d'une position paradoxale. La France, le Royaume-Uni et l'Allemagne soutiennent le droit d'Israël à se défendre face à la menace existentielle que constitue, selon eux, la détention par le régime islamique de l'arme nucléaire. Une position paradoxale, précise le quotidien français, dans la mesure où les capitales européennes, Paris en tête, sont les premières à avoir cherché à relancer les négociations entre Washington et Téhéran, en particulier dans le contexte de la réélection de Trump, afin d'éviter qu'Israël ne passe à l'offensive contre le programme nucléaire iranien avec le soutien ou pas des États-Unis.
Merci Catherine Potet. Bonjour Jean-Baptiste Placard.
Bonjour Julien Coquelle-Rohel.
Sous prétexte qu'il aurait échoué sur tous les plans, Fornia Singbe a été, ce 12 juin, sommé de démissionner par l'opposition et la société civile. Cette injonction a-t-elle quelque chance d'être entendue par le dirigeant togolais ?
Ce serait un miracle, mais comment reprocher à un peuple qui ne croit plus au pouvoir du bulletin de vote d'espérer un signe du ciel ? De la possibilité de conduire Fornia Singbe par les urnes, les Togolais depuis longtemps ont fait leur deuil. Il ne sait pas perdre. Après tout, la réforme constitutionnelle contre laquelle protestaient les jeunes arrêtés la semaine dernière visait à perpétuer son bail aux commandes du Togo en s'épargnant les accusations de mandat sans nombre. Ce serait véritablement un miracle si, après toutes ces contorsions, il démissionnait à la suite d'une simple injonction d'opposants. Tout comme il serait illusoire d'espérer le voir abandonné par fierté à cause de l'allusion faite à son bilan peu glorieux. Manque de légitimité, carence de la gouvernance, échec sur le plan économique, incapacité à offrir un modèle exemplaire aux jeunes générations. Le tableau dépeint par le professeur David Dosset pour exiger sa démission est accablant. S'accrocher au pouvoir avec un tel bilan, corroboré en plus par certains membres de son propre camp, relève des motivations impénétrables. Il faut du courage, beaucoup de courage, pour renoncer au pouvoir.
Peut-être croit-il que les opposants sont juste de mauvaise foi et que ses anciens partisans sont aigris.
Au-delà des opposants et des déçus de son propre camp, Faure Gnassingbé a un problème plus grave qui est sous les yeux de tous, les performances plutôt étincelantes des pays voisins. Oublions le Burkina qui a ses problèmes. En plus d'être un pays enclavé, tributaire des États côtiers pour ses exportations et ses importations. À l'est, le Bénin, sur qui le Togo avait dans les années 70 et 80 une avance certaine, accrue par les ravages de la révolution marxiste sous Mathieu Kérékou. Même les lycéens et collégiens béninois préféraient à l'époque aller terminer leurs études secondaires au Togo ou même plus loin. Après la conférence nationale de 1990, le pays s'est relevé progressivement. Mais ces 9 dernières années, le Bénin s'est construit avec méthode, dans une modernité qui s'étend à tout le territoire national, pas seulement à Cotonou et Porto Novo. D'aucuns évaluent aujourd'hui à un bon quart de siècle le retard qu'accuse le Togo par rapport au Bénin, qui a lui aussi ses problèmes politiques. Mais même ses plus féroces détracteurs reconnaissent à Patrice Talon d'œuvrer au mieux-être du Bénin et des Béninois. Rien à voir avec ce qu'une ancienne ministre des armées, membre du clan au pouvoir à Lomé, qualifie de petit projet aux objectifs inavouables, vanté par une propagande dont l'unique finalité est la conservation du pouvoir.
À l'ouest du Togo, le Ghana, on l'a souvent dit ici, rayonne plutôt, est-ce bien cela ?
Plus que jamais. Un diplomate angolais devenu ensuite ministre raconte que dans les années 80, en poste à Accra, ils allaient en fin de semaine faire leurs courses et se détendre à Lomé. Aujourd'hui, lorsqu'ils ont besoin de détente, les Togolais qui en ont les moyens vont en villégiature au Ghana, qui a lui aussi ses problèmes, mais avance de manière irréversible. On pourrait même poursuivre le voyage un peu plus loin, à l'ouest du Ghana, avec la Côte d'Ivoire qui continue de se construire et d'impressionner. Il se trouve que les Togolais visitent ces États voisins et n'ont donc nullement besoin de mauvaise foi pour constater que leur Togo, dans ce voisinage, est d'une anormalité d'autant plus triste que Faure Gnassingbé, arrivé au pouvoir à moins de 40 ans, aurait dû brûler plus que tous d'envie de très bien faire. S'accrocher au pouvoir n'est tolérable que si on s'applique au moins à faire le bonheur de son peuple. Mais toute boulimie de longévité au pouvoir qui se nourrit du mépris de ceux dont on accapare ainsi le destin est, au regard de l'histoire, doublement coupable.
Jean-Baptiste Placa, merci beaucoup. Et sur RFI bientôt, 6h en temps universel. Dans 4 minutes, le journal et la suite de notre matinée spéciale en ce deuxième jour d'escalade entre l'Iran et Israël. Vous suivez la situation d'ici là sur notre live RFI.fr. D'abord un peu de musique avec un groupe de funk français bien connu des années 90, Malka Family. De retour avec Ça va, ça va, c'est dans la sélection du mois de RFI.
Ça va, ça va, ça va. Hey, hey, est-ce que ça va?
Ça va, la Malka Family et la sélection du mois de RFI que vous retrouvez sur musique.rfi.fr. Il est presque 8h à Paris.
Tout à l'heure sur RFI, écho d'ici, écho d'ailleurs. Bruno Faure.
Vidia Mistral, c'est le grand partenariat annoncé cette semaine lors de l'événement VivaTech à Paris. Un investissement en milliards de dollars du géant de l'IA américain. Quelles conséquences pour ce secteur stratégique? Quelles implications pour les Européens et pour le reste du monde?
Écho d'ici, écho d'ailleurs.
Avec la Banque Ouest-Africaine de Développement.
Tous les samedis à 10h10 TU sur RFI.
Du 13 au 22 juin, la Maison des Cultures du Monde célèbre le Festival de l'Imaginaire pour une dernière édition. Au programme, chants rituels de Syrie, flamenco d'Andalousie, maître des musiques et des danses coréennes ou théâtre d'ombre du Brésil. Rendez-vous au Théâtre de l'Alliance Française et dans les lieux partenaires pour cette dernière édition du mémorable Festival de l'Imaginaire avec des artistes venus du monde entier. Plus d'informations sur festivaldelimaginaire.com en partenariat avec France Média Monde.